très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h01.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez pendant 60 minutes. On va vous montrer que les Français ont des idées, qu'il y a des hommes et des femmes de talent qui prennent des initiatives, qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui inventent la société de demain. Gros plan aujourd'hui sur les entreprises et les associations qui font en sorte de faire remonter la parole citoyenne. Alors que le grand débat national s'achève dans 10 jours, on vous parle de la Civitech, ces projets numériques qui encouragent l'engagement citoyen et qui redynamisent la vie démocratique. C'est en soignant leurs 3 enfants qu'un couple a fondé un laboratoire d'aromathérapie il y a 14 ans. Vous avez sûrement senti l'un de leurs sprays assainissants. Pure essentielle, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Faire des économies, ce n'est pas toujours évident. Un compte bancaire en ligne vous permet de mettre de l'argent de côté sans rien faire. C'est la solution et c'est la France qui bouge sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, comment redonner un souffle à la démocratie? Si la tech peut créer des menaces, elle représente aussi de nouvelles opportunités si elle est utilisée à des fins d'intérêt général et de développement du pouvoir d'agir des citoyens. Parce que ce grand débat national, c'est grâce au numérique qu'il s'accomplit aussi. C'est la Civitech, ces start-up qui mettent la technologie au service des droits, du débat public et de l'organisation politique. Anissa, on attend toutes
bien
les
sûr.
Questions.
Vous pouvez réagir à cette émission, n'hésitez pas. Vous voulez nous faire découvrir des entreprises ou des associations qui contribuent à faire remonter cette parole citoyenne, ou vous avez des questions à poser aux invités d'Elisabeth Assayag? C'est maintenant que ça se passe au 39-21, le standard d'Europe 1, et sur Twitter, on vous lit avec le hashtag Europe 1.
Et pour en parler autour de la table, dans le studio Lagardère, notre coach du jour, Catherine Testa, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes la fondatrice de l'optimisme et du club des Chief Happiness Officer, pour nous donner des tas d'autres informations pendant toute la durée de l'émission. Paul Lassen, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes journaliste à la rédaction d'Europe 1. Un débat à grande échelle, des réunions publiques, des réunions en ligne, des milliers de contributions qu'il faut analyser, compiler, restituer. Bref, un énorme travail pour ce grand débat national. Et derrière tout cela, une start-up française, une pépite, hein, j'ai envie de dire. Ça s'appelle Cap Collectif. Cap Collectif qui recueille les propositions des citoyens qui participent au grand débat. Bonjour Cyril Lage.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et le président de Cap Collectif. Vous faites partie de ceux qui réinventent en quelque sorte la démocratie.
On essaye, effectivement.
C'est ce que vous tentez de faire. Depuis là, le 15 janvier, vous organisez les contributions écrites hein, de l'ensemble des participants de ce grand débat. Alors d'abord, on revient sur l'origine, hein, pour comprendre un peu ce que vous faites, sur l'origine de Cap Collectif. C'est d'abord un trio, vous êtes 3, et c'était une association à l'origine.
À l'origine, oui. C'est un projet qu'on a monté, on va dire bénévolement, une expérimentation, comme ça se fait beaucoup dans le web avec 2 copains. Un projet qu'on a appelé Parlement et citoyens, et qui visait à expérimenter une méthode de rédaction collaborative de la loi. Notre postulat était que si la démocratie est en crise, c'est en raison de la façon dont on produit la loi, à huis clos, de façon opaque et avec une minorité d'acteurs, dont des lobbies qui n'ont aucune légitimité démocratique.
Donc vous prenez une stratégie d'ouverture justement pour élaborer les lois.
Absolument.
Et vous voulez que finalement que chacun puisse donner son avis et surtout l'argumenter. C'est ça qui est important.
Oui, c'est ça. Et puis en rappelant qu'il y a un fondement juridique qui date de 1789, qui est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, qui reconnaît le droit à chaque citoyen de participer à l'élaboration de la loi. Mais c'était matériellement impossible sans l'avènement du web, et la participation se limitait principalement à des auditions. Et vous ne pouvez pas faire des auditions de la France entière. Ce que permet par contre le numérique. Donc l'idée n'est pas de contester la démocratie représentative, mais bien de l'ouvrir, comme vous l'avez dit, dans 2 directions. La transparence, il faut que chaque personne qui intervient, qui tente d'influencer la loi, que l'on ait connaissance de ces arguments et de ces propositions, et que cette possibilité de s'exprimer, qui est aujourd'hui réservée à une minorité, soit ouverte à l'ensemble des citoyens qui souhaitent s'impliquer dans l'élaboration de la loi.
Et donc c'est ce qui s'est passé, puisque vous avez reçu des soutiens d'élus locaux, des responsables associatifs, des chefs d'entreprise qui on parle de bien avant le grand débat national, qui oui. souhaitaient utiliser votre plateforme dans des organisations, et c'est là qu'est né le soutien collectif avec toute cette technologie que vous avez mis au centre du débat.
Oui, absolument. On avait donc Parlement et citoyens et s'adressait uniquement aux parlementaires pour co-construire la loi. Et comme ça se passe là aussi souvent avec le numérique, c'est que d'autres personnes voient d'autres usages à une technologie. Et effectivement, des élus locaux, des chefs d'entreprise, des responsables associatifs nous ont contactés en nous disant « on aimerait utiliser votre plateforme dans nos organisations ». Parce que vous l'avez dit en introduction, effectivement, notre focale à nous était celle de l'amélioration de la démocratie. Mais on voit finalement que décideurs publics, décideurs privés, même combat. Problème de défiance, problème d'efficacité. De la décision.
Problème de confiance.
Et dans tous les cas, la transparence et l'inclusion créent de l'efficacité, créent de la confiance.
Et puis fin décembre, on vous a contacté et en 3 semaines, tout était au point pour, le grand, pour fournir la plateforme du grand débat national.
Oui, absolument. En fait, notre plateforme est distribuée en SaaS, c'est-à-dire ce qu'on propose nous. On n'est pas une agence informatique qui développe des sites web, on développe un logiciel qui est distribué sur Internet.
Et vous n'êtes pas géré par l'État, hein, il faut le dire.
Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Et donc, cette plateforme, aujourd'hui, elle a 8 applications participatives. Donc, elle est extrêmement flexible, consultation, appel à projet,
une sorte
enquête,
de boîte à outils, finalement.
Budget participatif, exactement. Notre objectif est de fournir, notamment aux collectivités locales, une plateforme leur permettant d'avoir une palette diversifiée d'outils pour tous leurs types de projets. Et c'est effectivement une de nos forces. Et puis, on a une expérience assez solide avec le gouvernement, puisqu'on a mené une quinzaine de projets par le passé. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle on a été choisi, puisqu'on a l'habitude de travailler avec le gouvernement. Notre technologie était déjà prête. Elle avait la flexibilité nécessaire pour accueillir ce grand débat qui était totalement inédit dans sa forme.
Catherine Testa, notre coach.
Alors, concrètement, vous citez sur votre site web, par exemple, la loi Pacte, le plan climat.
Oui.
Comment est-ce que vous avez fait pour mobiliser les acteurs concernés justement par ces projets de loi? Comment vous rendez ça inclusif? Comment vous appelez les salariés, les citoyens, les associations, je ne sais pas, à participer?
Alors, nous, en tant que Civic Tech, ce n'est pas notre rôle que de faire la communication et la promotion des opérations de nos clients. C'est eux qui le font eux-mêmes.
Okay.
Bon, quand on est dans un cadre privé, c'est-à-dire d'entreprise ou d'association, généralement, c'est très facile.
Ça, c'est
l'organisation
facile, ouais.
Dispose des fichiers. Dans les autres cas, bien, ce sont des moyens de communication traditionnels, incluant la presse. Je pense que la presse a eu elle-même un rôle assez décisif dans le succès de cette consultation, grâce à la couverture qu'elle a donnée à cette consultation, ce qui n'avait jamais été le cas dans les consultations précédentes, y compris la dernière que nous avions faite sur les retraites, qui est quand même un sujet majeur, mais qui n'était pas faiblement évoqué, en fait.
Alors, comment vous faites pour garantir la sécurité des contributions?
Alors, sécurité, vous parlez au sens informatique?
Oui, enfin, c'est-à-dire que ça reste anonyme.
Alors, nous, c'est effectivement un choix qu'on a fait depuis le départ. Quand la personne va créer son compte, on va lui demander d'indiquer un nom ou un pseudonyme d'utilisateur. Donc, on peut donner son nom personnel, Cyril Lage, ou Toto47 si on le souhaite. Un email, un mot de passe et le compte est créé. Il suffit ensuite de valider la demande par son email comme tout autre service.
Ça s'appelle Cap Collectif. Cyril Lage, vous restez avec nous. On va continuer à parler de la Civitech.
Il est 13h08.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Comment faciliter le lien entre les élus locaux et les citoyens? C'est l'objectif de la start-up FreeCity. Et c'est ça, la France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1, tous les jours de 13h à 14h avec Elisabeth Assayag. Aujourd'hui, Elisabeth, grâce à vous, grâce à vos invités, nous découvrons ces entreprises, ces associations qui contribuent à faire remonter la parole citoyenne. Le grand débat national, on en parle beaucoup dans l'actualité. Eh bien, vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas, hashtag Europe 1 sur Twitter pour vos messages. Et le 3921, c'est le standard d'Europe 1.
Imaginez une plateforme de participation citoyenne, des sondages, des appels à idées, des enquêtes de projets participatifs. C'est ce que fait FreeCity. Bonjour Julie de Pimaudan.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de FreeCity. Alors vous avez eu plusieurs vies professionnelles. Quand on regarde un petit peu votre bio, vous avez travaillé chez Google, à la régie publicitaire. Vous avez été journaliste au Moyen-Orient, notamment pendant le printemps arabe. Et vous vous êtes dit qu'il y avait un fossé entre les élus et les citoyens.
Exactement. Donc, pendant mon expérience qui a quand même duré 7 ans au Moyen-Orient, où j'ai vécu au Yémen, en Turquie, aux Émirats, je me suis rendu compte de la crise démocratique assez forte qui existait un petit peu partout dans le monde. Et j'ai eu envie de proposer des solutions par rapport à ça. Et en fait, c'est en travaillant chez Google en me rendant compte qu'énormément d'acteurs privés étaient obsédés par les retours de leurs utilisateurs pour proposer en continu des solutions de plus en plus pertinentes, que j'ai eu envie de proposer un outil, une plateforme permettant aux acteurs de la sphère publique d'utiliser les meilleures pratiques de la sphère privée, c'est-à-dire être à l'écoute de leurs utilisateurs. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment les citoyens.
Alors, comment ça fonctionne très concrètement, votre appli ?
Donc, très concrètement, tout citoyen peut arriver sur la plateforme. Ça fonctionne un petit peu comme un réseau. On arrive, on se géolocalise et on peut tout de suite proposer une idée d'amélioration ou faire remonter un signalement par rapport à sa commune ou même à sa région. En fait,
pas dédié pour le grand débat national au début.
C'est pas dédié pour le grand débat national. Ça fait 3 ans qu'on existe, qu'on travaille avec énormément de collectivités, de maires un peu partout en France, mais pas que. On travaille aussi en Belgique. Et l'idée, c'est de permettre à tout citoyen d'avoir un impact sur le débat public et de participer beaucoup plus facilement.
N'importe qui peut participer.
N'importe qui peut participer. Et nous, notre rôle, ça va être de faire remonter ces idées, ces participations aux élus en charge des territoires. Donc, par exemple, notre tout premier client, c'était Sébastien Lecornu, qui est aujourd'hui en charge du grand débat. À l'époque, c'était le jeune maire de Vernon. Il avait 29 ans et il avait besoin d'une plateforme pour sa commune pour recréer le lien social et pour communiquer avec une population qui, d'habitude, n'allait pas s'exprimer dans le cadre de réunions publiques ou de conseils de quartier. Et donc, ça a été un moyen très efficace pour lui de consulter les citoyens, de leur faire des sondages. Aujourd'hui, il y a 15% de la population de Vernon qui l'utilise avec des projets très, très concrets qui aboutissent chaque semaine.
Quel genre de concret vous avez eu ?
Des potagers collaboratifs. On a eu la mise en œuvre de boîtes à livres. Ça peut être des projets de solidarité. On a quand même 35% des propositions citoyennes qui touchent à la cohésion des territoires avec ce gros besoin de s'exprimer, d'avoir un impact, de participer de manière plus régulière.
Passer par vous, c'est plus efficace que d'écrire directement au maire ?
Passer par nous, ça permet d'avoir une forme de transparence. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, si j'ai une idée, j'ai envie de m'exprimer, je vais pouvoir la publier sur la plateforme et je vais tout de suite avoir une centaine de citoyens qui vont voter pour, contre et échanger autour de cette idée.
On va voir en fait si le projet prend finalement.
Exactement.
Directement.
Donc nous, en fait, on va mettre en avant cette idée et aller voir le maire au moment où cette idée a eu le plus de popularité en lui disant finalement, ça correspond vraiment à un besoin d'un grand nombre de citoyens sur votre territoire et donc ça vaut le coup d'y répondre et potentiellement de concrétiser cette proposition.
Paul, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, il existe des associations comme celle de nos invités qui se battent pour permettre aux citoyens d'agir. C'est possible de tout recenser ?
Eh bien, il existe une espèce d'annuaire qui s'appelle, et ça ne s'invente pas, Civic Tech,
ça tombe bien.
Qui recense une cinquantaine d'associations et d'entreprises au service des citoyens pour faire remonter leurs doléances. Une quinzaine d'associations et plus de 30 entreprises en tout, des plateformes consultatives et collaborative, mais aussi des observatoires de la vie publique. On peut également mentionner des mouvements qui, eux, sont directement impliqués dans la vie politique, comme Ma Voix ou Bastille, qui ont, par exemple, présenté des candidats aux dernières élections législatives. Enfin, plusieurs médias citoyens et participatifs voient le jour sur Internet. Et je vous donnerai un exemple un peu plus tard dans l'émission.
Énorme teasing.
Oui, voilà.
Catherine Testa, vous avez une question à poser à Julie de Pimaudan.
Vous évoquiez les mots confiance et transparence. Aujourd'hui, un citoyen qui va proposer, par exemple, une idée, est-ce que le maire va se devoir de répondre à l'ensemble des idées ? Comment est-ce que ça redescend ensuite ? Parce que l'information, elle remonte. Et puis derrière, comment ça redescend en disant, est-ce que ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire ? Est-ce que chaque idée est traitée ? Comment ça se passe ?
Ouais, alors cette question est vraiment intéressante parce que sur ce rôle de tiers de confiance que Fluicity joue, au départ, on a décidé d'apporter ce service de cohésion sociale au sein des territoires parce qu'on s'est rendu compte que soit les plateformes proposées étaient sur mesure à la demande du maire, à la demande de l'institution et donc attiraient peut-être un peu moins les citoyens parce qu'ils avaient l'impression que c'était complètement géré par le maire, soit c'était des plateformes qui ne faisaient que récolter les avis des citoyens et qui avaient du mal à concrétiser un certain nombre de projets. Donc ce rôle de tiers de confiance, il est vraiment au cœur de notre démarche. Et pour assurer cette confiance, il y a en effet donc, une validation, comme on en a parlé tout à l'heure, qui vient du bas. Donc une fois qu'on a atteint un certain nombre de votes et de participation, le maire va être obligé d'y répondre. Et une fois qu'on y répond, mais l'ensemble des personnes qui ont collaboré autour de la proposition ou de l'idée vont être notifiées et vont pouvoir voir que l'action publique a du sens et est à l'écoute des citoyens. Donc cette notion de confiance, elle est liée vraiment à la concrétisation et au côté... vraiment très pragmatique de notre plateforme.
Judith Pimodo, un mot sur le grand débat. Vous avez ouvert votre plateforme aux mairies. Ça a été fulgurant. Très rapidement, vous avez recueilli des milliers de contributions.
Oui, alors en fait, on a d'abord eu énormément de contributions de manière organique qui étaient portées sur les Gilets jaunes, le grand débat, etc., en amont du grand débat. Et on s'est dit, finalement, ce serait intéressant d'ouvrir un espace dédié pour
au grand débat
qui s'appelle Mairie Ouverte et qu'on a lancé en partenariat avec l'Association des maires ruraux de France
oui.
qui a été la première association de maires à ouvrir cette opération et à demander aux 11 000 communes rurales et périurbaines d'ouvrir leur mairie les week-ends pour accueillir les doléances des citoyens. Et quand on a vu ça dans la presse, on s'est dit les pauvres maires qui ont déjà énormément de travail, qui en général gèrent d'autres choses, etc., ce serait peut-être intéressant de leur fournir une plateforme numérique, une solution pour leur éviter de devoir faire le dépouillement à la main. Et du coup, ça a été accepté très rapidement par l'association. On a eu plus de 1500 communes en France qui ont participé à cette opération, qui participent toujours. Et donc cet espace, il est disponible aujourd'hui sur Flucity, il s'appelle Mairie Ouverte. Et il y a plusieurs consultations qui sont justement liées à la cohésion des territoires, qui est vraiment notre thème préféré par les citoyens sur Flucity, et qui permettent de participer sur des sujets comme le rôle du maire, la vie en territoire rural... Et d'autres sujets comme l'égalité sociale et l'écologie, bien entendu, qui sont les trois thèmes favoris des citoyens.
Ça s'appelle Flucity. Restez avec nous, hein, Julie de Pimodan.
Il est 13h18.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Participer au grand débat national sur Messenger, c'est possible grâce à l'application Entendre la France.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec vous Elisabeth Assayag, avec vos invités. On parle beaucoup du grand débat national dans l'actualité. Bien aujourd'hui, nous découvrons ces entreprises, ces associations, ces startups, ces applications qui contribuent à faire remonter la parole citoyenne. Vous pouvez réagir, poser toutes vos questions. N'hésitez pas, Twitter, hashtag Europe 1 et le 3921, c'est le standard d'Europe 1.
Et les jeunes auraient pu être les grands absents du grand débat national. Ainsi, pour les inciter à s'exprimer, la mairie de Paris et l'association Entendre la France ont mis en place une consultation via Facebook et Messenger. Bonjour Florence Ibéras.
Bonjour.
Alors vous et vos deux associés, vous êtes trois ingénieurs, vous avez créé cette application Entendre la France pour permettre au plus grand nombre de participer au grand débat national et finalement vous touchez des gens qui n'auraient jamais participé.
Exactement. Donc avec Alexis et Jérémy, mes deux cofondateurs, on est convaincus, je pense, comme Cyril et Julie, que les nouveaux outils numériques peuvent et doivent même permettre de construire une société plus participative et même plus inclusive. Donc, comme vous l'avez dit, il y a évidemment des menaces, mais aussi des opportunités. Et nous, on veut vraiment se focusser sur la partie opportunité.
Alors, avec vous, c'est quoi ? Quelles sont les opportunités ?
Donc, l'opportunité, c'est avant tout ce grand débat. Donc, on a vu, un peu comme vous tous, la crise des Gilets jaunes. Et puis, le président de la République qui a voulu encourager des millions de personnes à participer. Donc, on a vu les maires qui sont rendus sur des ronds-points, des réunions citoyennes, on s'est dit tout ça, c'est très bien, et je pense que ça convient à une frange de la population, mais les Français s'expriment avant tout sur Facebook, il y a 38 millions de comptes sur Facebook, et on s'est dit, avec Alexis et Jérémy, on va construire ce qu'on appelle un chatbot sur Facebook Messenger, donc qui est un peu un agent conversationnel.
Une forme de robot.
Exactement, voilà, qui permet de reprendre un peu les questions qui ont été posées dans le cadre du grand débat, plus une catégorie contribution libre, puisqu'on veut aussi que n'importe qui puisse s'exprimer sur n'importe quel sujet, et qui va permettre de toucher tous les Français qui sont sur Facebook, et donc en particulier les jeunes.
Et ça a été le cas, vous avez touché énormément de personnes, puisque je crois qu'en 4 semaines, vous avez eu plus de 250 000 réponses.
Exactement, aujourd'hui on a plus de 250 000 contributions, et comme vous le disiez, notamment auprès des jeunes, donc on a plus de 80% de jeunes moins de 35 ans, et plus de 60% entre 18 et 25 ans même.
L'âge moyen
est autour de 29 ans.
Oui.
Donc voilà, donc c'est quelque chose qui marche très bien auprès des jeunes. On est aussi présent dans tous les départements de France. Donc comme Facebook, en fait, pourquoi ça marche, vous allez me dire sûrement, c'est que c'est très simple. En fait, vous prenez votre téléphone, si vous avez Facebook Messenger, vous cherchez Entendre la France dans Messenger, vous le rajoutez comme si vous rajoutiez un ami, et 10 minutes après, vous avez participé au grand débat.
Et on a le choix entre plusieurs catégories ou tous les thèmes sont mélangés ?
Non, alors vous avez le choix entre les 4 thèmes qui ont été décidés du coup par le gouvernement, plus effectivement ce thème additionnel qui est contribution libre, si vous avez quelque chose à raconter qui n'est pas exactement dans ces 5 thèmes. Et pourquoi est-ce que, encore une fois, ça marche ? Je vais donner l'exemple un peu de mon beau-père. On était là le week-end dernier à dîner en famille et je lui pose la question « Est-ce que le grand débat, ça t'intéresse ?» Et il me dit « Bah oui, ça m'intéresse. » Et je dis « Est-ce que tu vas participer au grand débat ?» Il me dit « Bah non. » Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Et il me dit « La flemme. » Je dis « Bah écoute, prends ton téléphone, t'as bien Facebook Messenger, il a Facebook Messenger, tape Entendre la France. » Pendant 10 minutes, on ne l'a plus entendu parler, et à la fin, il avait participé. Donc il passait d'un moment où il ne voulait pas participer, où il avait effectivement participé au grand débat. Et on pense que c'est vraiment ça, en fait, la clé du succès, c'est la simplicité d'utilisation.
Catherine Testa, notre coach.
Ouais, alors, je pense que je suis dans votre cible parce que je l'ai utilisé. C'est comme ça que j'ai participé au grand débat.
Comme quoi.
Très content d'entendre ça.
C'est très fonctionnel. Comment vous remontez l'info? Parce que vous avez des tonnes astronomiques, j'imagine, de data aujourd'hui.
Bien sûr.
Vous l'analysez, vous la remontez. Comment quand vous la redonnez au gouvernement? Comment ça se passe?
Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, on a une information qui est très riche parce qu'effectivement, non seulement on a les réponses, mais on pose aussi des questions qualificatives à la fin qui sont notamment votre âge, d'où vous venez.
Et ça reste anonyme.
Ça reste absolument anonyme, c'est des questions qui sont absolument optionnelles. Votre niveau d'études qui nous permet de qualifier les données. Et en fait, toutes ces données, en fait, on va en faire une synthèse qu'on va remettre au gouvernement. Au niveau du travail, on a commencé le travail d'analyse puisqu'effectivement le temps est contraint et ça c'est quelque chose qu'on est contraint, qu'on partage avec beaucoup de gens qui analysent ces données. Et du coup, en fait, on travaille avec des associations comme Data for Good qui ont des data scientists qui permettent grâce à des algorithmes sémantiques d'analyser toute cette donnée parce qu'effectivement, on ne peut pas le faire à la main et ressortir les gros thèmes. Et donc, il y a des gros thèmes qui ressortent. Par exemple, le samedi. Donc, en fait, les services publics ouverts le samedi, c'est quelque chose qu'on voit que le mot samedi ressort beaucoup. Et donc, c'est quelque chose qu'on va mettre effectivement dans ce rapport, qu'on va remettre au gouvernement à la fin du grand débat.
Paul, il existe également des médias citoyens en ligne pour intéresser tout le monde à la politique. Et là, justement, ça tombe bien, même les plus jeunes.
Oui, et notamment une chaîne YouTube créée par Jean Massier, un ancien du monde politique qui s'appelle Acropolis. Jean Massier, dont on a entendu parler il y a quelques semaines, puisque c'est lui qui a animé le débatton avec les 10 ministres sur la plateforme Twitch. Et Acropolis, c'est un peu dans l'idée des plateformes de streaming de jeux vidéo. Ça permet aux spectateurs d'interagir directement avec lui. Le but, c'est de comprendre l'actualité, d'apporter des infos au public grâce à un décryptage en direct. Et ce sont les internautes qui font le débat, les citoyens qui posent leurs questions. Et pour Jean Massier, mieux faire comprendre les enjeux des institutions et des décisions des acteurs politiques, c'est un début de solution pour aider chacun, chaque citoyen à s'impliquer un peu plus dans la vie politique.
Anissa, vous aviez une question pour Florence Iveras.
Oui, parce qu'on connaît les dangers des réseaux sociaux. On sait que parfois, certains peuvent se lâcher, qu'il n'y a pas vraiment de barrière. Comment ça se passe? Vous avez des médiateurs? Vous avez des gens qui des gens qui régulent un petit peu tout ça ou...
Alors, on avait le même doute que vous. C'est effectivement que sur Facebook, on voit souvent ce qu'on appelle communément des haters qui vont dire « alors, ça ne sert à rien, tout ça ». Alors, on n'en va pas en cacher, on en voit un petit peu, notamment dans les commentaires, mais en fait, il y a un vrai filtre, c'est-à-dire que pour rentrer dans le questionnaire, il y a quand même des questions, et voilà. En fait, finalement, on se rend compte que la donnée est plutôt riche. On a d'ailleurs une plateforme, si ça intéresse certains, on met toutes les données, de façon anonymisée à disposition de tout le monde sur réponse@entendelafrance.fr. Vous pouvez voir toutes les contributions qui sont, dans une très très large majorité, très constructives.
Là, c'est juste de la consultation, on ne peut pas participer.
Si, absolument, vous pouvez participer, donner des idées, mais en fait, ce qu'on appelle les haters, les gens qui critiquent, en fait, s'arrêtent au post Facebook et mettent à la limite en commentaire sur le post Facebook, mais ne vont pas rentrer dans le chatbot, puisque ça demande une démarche avec un peu de frein. Voilà, donc en fait, on est déjà très qualifiés et très constructifs, et donc on a vraiment impatience de faire une analyse et une synthèse pour le gouvernement et pour chaque personne qui s'intéresse au débat.
Et il n'y a pas de risque qu'il y ait un groupe ou des groupes qui puissent faire pression, justement, sur Entendre la France?
Alors, je pense que les risques existent comme pour n'importe quelle initiative. L'avantage, j'ai envie de dire, de Facebook, d'une certaine façon, c'est que Facebook peut être d'ailleurs critiquable sur beaucoup d'aspects, mais en fait, il y a une certaine robustesse de l'infrastructure qui fait que c'est très difficile de créer plein de comptes ou plein de faux comptes et du coup de manipuler le débat. Donc, en fait, on ne peut pas créer plein de faux emails pour rentrer dans Entendre la France. Donc, en fait, la robustesse de l'infrastructure fait que c'est une personne, une réponse et qu'on contrôle ça assez bien.
Catherine Testa.
Alors j'ai une question pour vous trois, parce que là on parle beaucoup du grand débat, on a les européennes qui vont arriver le 26 mai. Est-ce que vous êtes déjà engagés sur cette thématique? Est-ce que vous allez y participer? Est-ce que vous allez essayer de mobiliser en plus les citoyens français pour ces élections, ou c'est encore trop loin?
Nous, de notre côté chez Flucity, donc on n'est pas particulièrement centré sur le grand débat. Il y a vraiment cette logique en continu qui existait avant et qui va exister après le grand débat. La Commission européenne est partenaire de Flucity et a déjà lancé une grande consultation sur les élections européennes, sur différentes thématiques. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille déjà depuis quelques mois et sur lequel il va y avoir une restitution avant les élections. Donc c'est un thème très important pour nous.
On reste ensemble, on continue à parler de la Civitech, de ces entreprises qui redynamisent la démocratie et encouragent la parole citoyenne.
Anissa. Il est 13h26. La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Elisabeth Assayag. Et aujourd'hui, nous découvrons toutes ces entreprises, ces associations, ces start-up françaises qui contribuent à faire remonter la parole citoyenne, qui vous donne la parole par des moyens très divers. N'hésitez pas à réagir. Hashtag Europe 1 pour vos messages et vos questions. Le 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, Elisabeth.
Et nous sommes toujours avec la coach du jour, Catherine Testa, fondatrice de l'Optimisme et du Club des Chief Happiness Officers, avec Paul Lassène de la rédaction d'Europe 1, qui est là pour nous apporter toutes les infos en plus. Et avec nous, pour en parler, Cyril Lage, le cofondateur de Cap Collective, Julie de Pimaudan, la fondatrice de Fluicity, et Florent Sibéras, le cofondateur de Entendre la France. Alors là, on arrive à la fin du grand débat national. Les consultations se terminent le 15 mars, dans une dizaine de jours. Je m'adresse à tous les trois. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Est-ce que déjà, il y a des choses, des thèmes qui sont plus abordés que d'autres? Qui répond?
Moi, je peux commencer sur la question des thèmes. Le thème qui ressort le plus, nous, dans nos données, ce serait intéressant de voir ce qui ressort de l'autre côté, c'est le thème démocratie et citoyenneté, qui a été plébiscité.
La place du citoyen.
Voilà, exactement. Dans les quatre thèmes qui ont été donnés par le gouvernement, c'est démocratie et citoyenneté. Ce qui est assez intéressant, je pense aussi, dans le contexte de cette émission, c'est de voir qu'il y a vraiment une vraie demande de comment est-ce que moi, en tant que citoyen, je m'inscris dans cette démarche publique et dans les décisions publiques.
Donc comment je deviens acteur?
Voilà, comment est-ce que je deviens acteur concrètement? Donc je pense que c'est vraiment intéressant, quand on prend vraiment une vue d'hélicoptère, de sentir qu'il y a pas mal de demandes là-dessus. Et je pense que, voilà, avec Cyril et Julie, on est aussi heureux de participer à notre échelle à donner des réponses sur ce thème.
Alors, Cyril, là, je veux...
Nous, c'est l'inverse.
Vous, c'est argumenté. C'est-à-dire qu'on fait des propositions, mais il faut que ce soit... qu'il y ait un raisonnement derrière, que ce soit argumenté, étayé, etc.
Oui, enfin, mais dans le cadre du grand débat, Entendre la France a repris les questions du grand débat, donc on est sur les mêmes questions, mais justement c'est intéressant puisque le thème qui est en premier chez eux est en dernier sur le site, on va dire, officiel du gouvernement. Le premier, c'est celui de la fiscalité. J'en tire pas plus d'enseignement que ça. Hein. On verra l'analyse des contributions sur Fluicity.
Non, tout à fait, on a peut-être un biais, on le sait d'ailleurs, beaucoup plus jeune. Voilà, ouais. Et on le sait. Hein.
Donc, nous, c'est la fiscalité qui se détache. Pas de beaucoup, c'est 34% des contributions. Donc, sur quatre thèmes, vous voyez, c'est pas très, très significatif.
On peut comprendre que les jeunes sont moins intéressés par la fiscalité aussi, puisqu'ils ne sont pas forcément tout de suite dans le monde du travail. Donc, c'est relativement naturel.
Sachant que nous, on n'a pas de données sur le profil sociologique, donc on ne sait pas dire quel
c'est
est.
Jeune
voilà,
ou
ce que c'est un choix de fonctionnement, on ne prend pas ce type d'infos.
Donc nous sur Fluicity, sur l'espace donc mairie ouverte qu'on a lancé avec l'Association des maires ruraux de France en amont du grand débat, donc c'est une opération qui a duré à peu près un mois. C'était sujet numéro un, l'organisation politique et territoriale, donc des idées comme le référendum local, les commissions citoyennes. Sujet numéro deux, la justice sociale, le déploiement du revenu universel de base par exemple. Et sujet numéro trois, la transition écologique et énergétique, gratuité des transports à l'échelon local.
Catherine Testa.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que le citoyen commence à se re-responsabiliser comme le salarié commence à se re-responsabiliser.
Ouais, il se passe quelque chose, on l'entend là.
Et exactement, parce que dans l'entreprise aussi, vous travaillez aussi parfois avec le monde dans l'entreprise, je crois, pour vous...
Pour Florence Sibéras.
Absolument.
Ouais. Et de fait, on commence à demander la parole... aux salariés, parce qu'on se rend compte que l'intelligence collective est plus forte en fait que l'intelligence individuelle, et de fait, peut-être qu'aujourd'hui le citoyen est plus engagé finalement à donner son avis, et vous n'avez pas évoqué, Julie, quelle était votre population, qui va sur Fluicity en l'occurrence?
On a un échantillon vraiment assez représentatif. On espérait aussi toucher surtout les jeunes, parce qu'on était sur des plateformes au départ très mobiles. Aujourd'hui on a un site web et un site mobile, et en fait la réalité, c'est qu'on touche une population représentative. Quand on compare les données de nos utilisateurs par rapport aux données INSEE, on est très très proche en termes d'âge et de représentativité.
Il y a des choses que vous refusez? Est-ce qu'il y a des lignes rouges où on peut supprimer des contenus, par exemple, Cyril Lage?
Oui, on en a un certain nombre. J'ai parlé de l'anonymat tout à l'heure. C'est quelque chose sur lequel on ne reviendra jamais. D'autant plus parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, on a un taux de modération chez nous qui est inférieur à 1%.
1%?
1%.
Bah, c'est sidérant, ça.
Oui.
1%,
1% sur 750 projets en 6 ans, avec des centaines de milliers de citoyens, plusieurs millions même sur l'ensemble de nos consultations.
Par rapport aux réseaux sociaux classiques, c'est rien du tout.
Mais ça s'explique très simplement. Tu as donné d'ailleurs une des pistes. sur les réseaux sociaux et sur les sites des médias, la personne réagit à une information passée, à quelque chose qui est passé dont on lui livre une information. Dans une consultation, on lui livre une information pour construire le futur. Mmh. Et les gens sont intelligents et ils comprennent juste le contexte et vont adapter.
On n'est pas dans l'impulsion, on est dans la réflexion.
Exactement, on passe dans la réflexion et les modèles qu'on propose de consultation sont basés sur des modèles réflexifs qui amènent ça. Et on a aussi créé quelque chose chez nous qu'on appelle la corbeille ouverte, qui fait que tout contenu modéré va dans une corbeille qui reste consultable. Nos clients ne peuvent pas censurer les utilisateurs. Les utilisateurs ne peuvent pas se plaindre sur les réseaux sociaux qu'ils ont été censurés, puisque les contributions restent visibles.
Paul, on en parle là depuis 13 heures de ces entreprises, de ces associations qui nous aident, mais l'État a lancé sa propre plateforme en ligne.
Oui, absolument. En 2011, Etalab, qui est sous la tutelle directe du Premier ministre, et elle contribue à la mise en œuvre des principes de ce qu'ils appellent un gouvernement ouvert. En gros, c'est une plus grande transparence de l'action publique, l'organisation de consultations et de concertations en ligne avec la société civile. Et elle incite les citoyens, nous, à participer directement à la prise de décision dans cette société civile. C'est cet organisme qui a, par exemple, mis en place le portail en ligne data.gouv.fr, le site du gouvernement pour partager et améliorer les données publiques. Et parmi ces objectifs, on note une action publique plus efficace et des coproductions avec la société civile.
Est-ce que vous avez l'impression que grâce à vous, on commence petit à petit à regagner la confiance des citoyens, la confiance de chacun ? Florent Sibérat ?
Oui. Absolument, moi je pense que
nous, vous voyez l'évolution
avec Alexis et Jérémy, on est vraiment des citoyens. Je pense qu'on est beaucoup moins experts que Julie et Cyril avec mes cofondateurs. On est des citoyens lambda. Cette association Entendre la France a été créée il y a 2 mois et on part vraiment du constat que il faut mettre les bons outils au centre du débat pour engager. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on porte pour engager les citoyens. C'est vraiment ce qu'on porte. Et on voit vraiment avec l'engagement de 250 000 contributions en un mois et demi avec notre association, il y a vraiment un désir de participer. Mais c'est juste que souvent, aller en mairie qui est fermée le samedi ou aller dans une réunion citoyenne quand on travaille, c'est pas forcément facile. Alors que tout le monde a un smartphone, tout le monde a Facebook Messenger. Là, si on leur donne les bons outils, oui, ils participent et ils ont envie de continuer à participer. Je pense qu'on est vraiment au début et on entend le frémissement un peu de cette participation citoyenne qu'on espère qu'il va continuer à s'amplifier dans les prochaines années.
Vous êtes une association.
Absolument.
Vous comptez le rester ?
On va le rester, absolument.
Et vous avez levé des fonds, vous êtes une entreprise. Vous avez beaucoup de clients vous avez levé des fonds récemment ?
Récemment, fin 2017, on a levé 2 millions d'euros auprès de la Caisse des dépôts.
Il y aura un avant et un après ce grand débat national pour quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise ?
Écoutez, on est en croissance de 80% par an depuis la création de l'entreprise, mais qui est principalement le symptôme de changement de société. Et je ne dirais pas que des citoyens
non,
en réalité.
Et vous avez des clients privés d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Mais par rapport à la question tout à l'heure, je pense que le changement est en train de se faire plutôt en haut qu'il ne se fait en bas. La demande de participation et d'implication, elle est là depuis très longtemps. Et je pense que c'est à force d'avoir des coups de boutoir qui sont venus d'Internet dans lesquels les citoyens ont fait preuve de cette agressivité, mais pas que. Ils ont utilisé Internet pour contrôler, surveiller, etc., qui ont amené en haut nos décideurs à se dire qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Et ce sont ces décideurs qui ont fait ce switch mental aujourd'hui qui font que nos sociétés se développent, travaillent avec nous.
Et travaillent dans ce sens-là. On s'aperçoit donc que le numérique, c'est non seulement un instrument de participation, mais aussi, pourquoi pas, des résolutions collectives de nos difficultés. Vous nous l'avez montré lors de cette émission sur la CivicTech. Merci à vous trois d'être venus nous en parler.
Merci.
Sur Europe 1.
Merci.
Il est 13h36.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Faire de l'aromathérapie un acteur mondial, c'est l'objectif de Pure Essentielle et c'est l'entreprise qui va bien, merci.